Apple enfonce le clou avec la bêta 2 d'iOS 17.4 qui s'annonce comme une révolution en Europe avec l'ouverture du NFC, l'arrivée du sideloading et des commissions revues à la baisse pour les éditeurs d'applications sur l'App Store. Des commissions ramenées à 10 et 17% seulement, cette semaine coup de projecteur sur ce à quoi ressembleront les futurs magasins d'app alternatifs. Il faudra 4 générations de Vision Pro pour parvenir au masque de réalité mixte idéal chez Apple. De l'aveu anonyme d'ingénieurs, la V1 tient plus du prototype vendu cher. Les développeurs d'app natives dressent un premier bilan après 10 jours avec des statistiques de téléchargement entre 6 et 14 000. On est encore loin des succès de l'iPhone. Le journal de la semaine avec une victoire pour Apple en Europe autour de Message qui ne sera pas forcé de s'ouvrir à d'autres protocoles de communication. Le nom de domaine iWork.ai déposé par Apple et les dernières rumeurs autour du Mac Mini M3 qui pourrait arriver dans le courant du mois de mars. Enfin, le bonus exclusif pour notre communauté Patreon, objectif 4 trilliards, soit 1000 milliards de plus de valorisation d'ici un an. Et avec l'IA, c'est tout à fait possible. Pour en profiter, rendez-vous sur patreon.com/iWeek. Le podcast sur l'actualité de l'écosystème Apple, c'est iWeek, la semaine Apple. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet épisode 173. Ici Benjamin Vincent, nous sommes le mardi 13 février 2024, il est 17h42 à Paris. Bonne Saint-Valentin dans quelques heures à tous les amoureux. Et je ne sais pas si vous êtes amoureux les amis, mais en tout cas vous êtes de retour dans iWeek. Et toi le premier, Ellie. Sorti de ton lit, salut Elia Bitbol.
Eh oui, vous ne voyez qu'une pâle version de moi-même. Il faudra 4 versions avant que je sois celui d'avant. ou alors, imaginez que vous me voyez à travers un Vision Pro et que j'ai été digitalisé pâlement. Voilà. Mais j'arrive à parler et ça, c'est déjà l'essentiel.
Bon, écoute, tant mieux, tu es un petit peu de retour à la surface. J'étais dans ton quartier pendant 48 heures à la fin de la semaine dernière. Je suis passé devant MCS à Cannes, d'ailleurs. J'ai dîné dans un de tes restos préférés, mais on n'a pas pu se voir.
Hélas, non, j'étais vraiment bien malade et je ne pouvais pas bouger de mon lit, en fait. Pendant une dizaine de jours, ça commençait à faire vraiment bien long. Hein.
Bon, je reviendrai.
Yes, mais avec plaisir.
Je reviendrai. Avec nous aussi aujourd'hui, Gilles Dounès. Salut Gilles.
Salut Benjamin, salut Élie. Content de te retrouver.
Merci.
Et content de te retrouver aussi Gilles, ancien rédacteur en chef de MacPlus.net, co-auteur d'iPod Backstage chez Duno. Ben, je suis très heureux d'être avec vous les amis cette semaine. On salue les absents du jour, Baptiste Dajon, François Le Truédic et Fabrice Neumann à qui on pense évidemment. Alors on démarre tout de suite avec l'événement de la semaine, la livraison d'iOS 17.4 bêta 2 et les révolutions qui se préparent pour nous en Europe. Cette bêta, elle nous emmène vers la 17.4 version finale, la version publique qui doit arriver au plus tard le 6 mars puisque c'est la date butoir fixée par l'Union européenne pour tous les changements qu'embarque cette nouvelle version. Aujourd'hui, coup de projecteur sur ces magasins d'app alternatifs qui vont donc bientôt arriver sur nos iPhones. On sait désormais comment ils vont fonctionner. Alors, on ne sait pas encore exactement à quoi ils vont ressembler, ça, les éditeurs qui se lanceront sur ce terrain pourront sans doute les gérer un peu à leur sauce. Il y a un point qui est certain, Ellie, c'est que ce sera pas open bar. C'est-à-dire que Apple garde le contrôle sur ce que feront les autres.
Absolument. Donc, ça va pas être si facile que ça pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, ça va pas arriver tout de suite, même si on sera en accord avec la législation européenne. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que pour que les développeurs puissent implémenter ces App Store alternatifs, Il va falloir utiliser les nouvelles API qui, tant que la bêta n'était pas sortie, n'étaient pas disponibles. Et il y en a, figurez-vous, 600. 600 API. Alors, je ne dis pas qu'il faut toutes les utiliser, mais
Ouais.
En tout cas, c'est un petit boulot à faire.
On peut
Ensuite,
rappeler ce que c'est qu'une API, Ellie, pour ceux qui savent pas?
bien sûr, pour un développeur, une API, c'est une façon de faire appel à une fonction du système, pour ouvrir par exemple une fenêtre, par exemple pour sélectionner quelque chose. Tout ça passe par des API. Ça veut dire Application Program Interface, donc quelque chose comme ça. Donc les développeurs connaissent bien. Baptiste pourrait nous faire un cours magistral sur les API, mais voilà. Donc il faut passer par là. Ensuite, il y a d'autres choses, c'est-à-dire que quand on fait une application, l'application, donc même sur un App Store alternatif, l'application doit être notarisée, ce qui était déjà le cas depuis un moment, mais que tout le monde n'était pas obligé de faire. Notariser, c'est en fait donner une signature numérique inaltérable. Donc il faut que l'appli soit signée. Et ça veut dire aussi qu'Apple passe, pour accepter la signature numérique, par une évaluation de l'app quand même. C'est-à-dire que...
Alors, technique, hein, mais pas sur le fond.
Oui, absolument. Et tu fais très bien de le dire parce que j'allais dire ça, c'est que ils vont simplement surveiller qu'il n'y ait pas de virus, qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse casser le système. Mais ils ont dit dès le départ que si les gens veulent derrière mettre du porno ou des choses comme ça, Apple se lavera les mains. En disant ou des contenus extrêmes ou tu vois donc des opinions politiques extrêmes ou autres qu'Apple surveille dans le respect des lois mais qu'il se permettait d'interdire dans certains cas. Et là ils vont dire bah écoutez nous on a juste vérifié que l'application ne risquait pas de faire exploser le système. Pour le
C'est ça.
reste allez voir le monsieur d'à côté, il va vous expliquer ce qu'il voulait faire. Donc ça peut être dérangeant parce que du coup, ces applis-là ne sont pas obligés de respecter tant d'écrans, ils ne sont pas obligés de respecter le contrôle parental. En fait, je ne sais pas si c'est aussi une façon de faire peur avant que ça sorte et je ne sais pas qui va être sur les rangs, mais une chose est sûre, c'est qu'en dehors du contrôle, une grande partie d'Internet est quand même basée sur le X. Et je ne parle pas de Twitter hein, cette fois-ci, c'est plutôt sur le contenu pour adultes. Et qui a un marché en dizaines de milliards de dollars pour le marché du contenu adulte. Et pour l'instant, c'était vraiment quasiment impossible à avoir sur iOS et les autres plateformes dérivées. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je pense que sans prendre un trop gros risque, il va y avoir une partie qui va forcément se développer hein, dans ce domaine. Bon, on verra.
Alors, comment ça va se présenter? En fait, chaque éditeur va d'abord devoir obtenir une validation d'Apple pour pouvoir mettre en place son magasin d'applications.
Oui.
On a déjà fait référence à cette lettre de crédit d'un million d'euros qui devrait être renouvelée tous les ans et qu'Apple exige.
Absolument. C'est leur
Bon,
droit.
déjà, ça va être une certaine barrière à l'entrée.
Bah, il paraît que Microsoft et Epic Games, ils peuvent. Mais les
Oui,
autres, je ne sais pas.
c'est ça. Mais les tout petits pourront pas, c'est sûr, pourront pas s'aligner et produire quelque part cette garantie. Une fois que l'éditeur sera validé pour créer son appli, alors ça va s'appeler très précisément en anglais une alternative. App Marketplace, donc une place de marché d'applications alternatives. Le
C'est
terme
ça.
App Store va évidemment être réservé à l'App Store d'Apple. Et donc, première étape, ce sera de faire valider, on va dire, la solidité financière de l'entreprise avec cette lettre de crédit qui devrait être délivrée par une institution notée A, donc une grande banque, voilà, comme celle qu'on a tous en tête. Ensuite, il faudra que cette application soit créée par l'éditeur. Et donc, ça suppose ensuite, Gilles, pour les utilisateurs que nous sommes, qu'on télécharge l'application, on va dire l'App Store pour être simple, l'App Store de chaque éditeur dont on voudrait acheter les apps séparément de l'App Store, c'est ça?
C'est ça. Et ensuite, à charge pour l'éditeur de respecter le cadre de travail, le framework, pour que l'application corresponde aux standards d'Apple avec les API, comme on l'a dit, qui vont appeler les diverses fonctions. Il faut également que ça n'aille pas, comme on le craignait, regarder un peu dans les applications du voisin. C'est aussi ce que va surveiller Apple.
Alors, Ellie, si j'ai bien compris, ces applications de places de marché alternatives, Apple se mêlera pas de leur installation. Ce sera directement entre nous et les éditeurs. Ça passera par le web. C'est les seules applis
Oui.
qu'on pourra installer sur un iPhone en passant par le web.
Oui, mais enfin, Apple le fait déjà pour certaines applications dites d'entreprise, mais bon, mais elles sont quand même pré-approuvées parce que il faut télécharger un certificat numérique qui doit être approuvé par l'utilisateur sur son téléphone ou sur sa tablette pour autoriser le téléchargement de cette app. Mais dans certains cas, Apple donnait la possibilité d'installer des bêta-tests ou des choses comme ça. Et donc là, le process, c'est un peu comme ça. Donc, une fois que ces étapes sont passées, l'utilisateur pourra télécharger depuis un site web, hein, donc de l'éditeur, l'application. En fait, on n'a pas vu vraiment d'interface finie, mais imaginons que moi, j'ai vu des App Store alternatifs, d'abord dans d'autres OS et ensuite sur des sites où c'est autorisé. Sur Android, par exemple, c'est autorisé. Et bon, généralement, ça se présente comme une page web avec des icônes. Et en fait, on clique sur l'icône, il y a un prix ou il n'y a pas de prix, et l'app se télécharge.
C'est ce qui se passe sur le Mac quand on va chercher directement sur le site de l'éditeur sans
Absolument.
passer par l'App Store.
Absolument.
Tu as
Ouais.
raison.
Absolument. Alors ensuite, il y aura trois cas de figure en fait. Parce qu'il y a des apps qui continueront de n'être disponibles que sur l'App Store. Ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc avec une commission pour Apple qui varie de 15 à 27 ou 30%. Et qui inclut tout en fait, hein. C'est le système que beaucoup d'éditeurs, dont Epic Games, critiquent depuis des années. Avec cette ouverture du sideloading, Apple met en place ce qui s'appelle la CTF, la Core Technology Fee. Alors, en fait, c'est une sorte de taxe qu'Apple va facturer pour chaque téléchargement d'une appli. Cette taxe, elle est de 50 centimes d'euros. Ça veut dire que si votre appli est téléchargée 1 million de fois, vous devrez 500 000 euros à Apple juste pour le téléchargement, même si c'est une app gratuite. Alors, ensuite, il y a deux cas de figure. Si votre app reste sur l'App Store, mais qu'elle est aussi disponible sur votre propre magasin d'applications, vous paierez la taxe de 50 centimes d'euros, mais le
Au
premier
loyer.
million de téléchargements sera gratuit. Donc les 50 centimes ne s'appliqueront qu'au-delà d'1 million de téléchargements. En revanche, si vous n'êtes plus présent sur l'App Store et que votre app est uniquement disponible sur votre magasin d'applications, là, vous ne payez que la taxe, donc 50 centimes d'euros, mais elle s'applique dès le premier téléchargement. Et donc, si vous visez 1 million de téléchargements, vous pouvez déjà provisionner 500 000 euros de frais de distribution quelque part, hein, voilà, avec une commission là qui sera baissée, parce que vous devrez quand même aussi une commission à Apple qui sera entre 13 et 20%.
Mais
Donc,
bon.
ce que beaucoup se disent, c'est qu'en fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Bah, c'est
Et
un
que
peu ça.
finalement,
C'est ça.
la commission d'Apple sur l'App Store, elle est pas si mauvaise.
Bah, oui. D'autant qu'Apple a baissé ses propres commissions.
Oui,
Donc,
c'est vrai.
absolument.
Donc, il y a une
Alors.
concurrence. Ça coûte plus cher, en fait, d'aller sur les j'allais dire App Store, sur les places de marché alternatives, que de rester chez Apple. C'est ça
C'est ça.
la filasserie et le diable qui se cache dans les détails, en fait.
C'est pour ça que les éditeurs sont pas du tout contents.
Bah non, parce qu'ils
Parce
pensaient que
qu'ils ont
ça
vite fait
allait
leur
être,
calcul.
ils pensaient que ça allait être open bar, mais en fait, ce qu'ont fait les avocats d'Apple, parce qu'Apple a beaucoup d'avocats, c'est qu'ils ont regardé le Digital Market Act, ils ont regardé quelles étaient les obligations et ils ont regardé est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire quand même en respectant ça. Et ils se sont dit, bah très bien, on respecte ce que nous dit la Commission européenne, mais il y a des prix à payer. Ben oui, ben vous aviez qu'à dire qu'il fallait qu'elle soit gratuite, hein. Donc,
Mais
donc comme... Vas-y, vas-y.
c'est normal puisque le développement de ces API qui sont mis à disposition des développeurs coûte des milliards à Apple. Comment dire, c'est le travail principal de tous les développeurs qui sont chez Apple, qui bossent sur les différentes applications. Il y a l'OS et son comportement lui-même, et puis il y a toutes les API qui sont là, mises à disposition des développeurs, parce que, souvenez-vous, Steve Ballmer, là, c'est les moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître, c'est developers, 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 cette hémorragie de développeurs chez Apple qui a failli tuer la boîte, qui l'empêchait d'avoir du contenu et des applications intéressante pour les de d'augmenter ses parts de marché. Donc là on garde les développeurs sur l'App Store maison, histoire de continuer à conserver des gens qui développent pour soi et qui ne vont pas faire n'importe quoi et galvauder le capital de sécurité et de fiabilité qui a été patiemment construit par Apple sur ces différentes plateformes.
Puis ça
Alors,
oblige à maintenir un
ouais.
OS alternatif, hein, puisque les versions iOS et autres, iPadOS, etc., américaines, n'auront pas cette partie-là tant que les États-Unis ne les obligent pas. Donc en fait, il y aura une version entre guillemets pour le monde et une version pour l'Europe.
L'Europe, c'est ça. Alors, pour être très précis, aujourd'hui, les commissions, donc, elles sont de 30%. Pour les, on va dire les gros éditeurs, ceux qui font plus d'un million de dollars de chiffre d'affaires. Et depuis quoi, 2, 3 ans, je dirais, il y a une commission diminuée pour les petits éditeurs qui font moins d'un million de dollars de chiffre d'affaires, qui n'est que de 15%. Ça, c'est la situation aujourd'hui, y compris en Europe. Mais à partir du 6 mars et avec l'arrivée de cette version 17.4, en Europe, il y aura des montants de commissions qui vont être révisés à la baisse et de manière assez spectaculaire, puisque la commission pour les éditeurs qui font plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, elle va passer de 30 à 17%. Et la commission pour ceux qui font moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires, elle va passer de 15 à 10%.
C'est exactement le montant de la commission qui avait été promise par Tim Sweeney au développeur qui viendrait dans sa boutique.
Donc, très franchement, avec des commissions à 17 et 10%, est-ce que ça vaudra vraiment la peine de s'emmerder à monter un magasin alternatif, sauf à vouloir faire du X? Et de payer cette taxe de 50 centimes par téléchargement et de gérer les taux de change, les encaissements, etc. Enfin bon.
Oui, et surtout, bon, et les remboursements, parce que
Oui.
chez Apple, c'est super facile de se faire rembourser une app. Et il faudra faire surtout le marketing au niveau mondial, parce que la promotion, le fait d'avoir des classements, le fait de faire les jolies illustrations que fait Apple, etc., tout ça a été très, très bien fait. Ça explique pourquoi d'ailleurs Apple prend
Et c'est les
une
éditeurs qui
commission.
font les illustrations.
Oui, mais ils les fournissent à Apple qui met en place, enfin, ils ont toute la structure, bien
Oui,
sûr, c'est...
oui, oui.
Mais il faudra travailler sur le marketing parce que ces applis, il faudra bien qu'elles soient attractives, que les gens aient envie de les télécharger. Il faut faire connaître le fait qu'il y a une App Store alternative et que
Ouais,
dans cette App Store
bien sûr.
alternative, il y a des
Ah
apps
oui.
intéressantes.
Ah oui, ça c'est sûr.
Alors, je voudrais pas mettre les boules sans sans mauvais jeu de mots à tous les gens qui voudraient se détendre devant leur iPhone en regardant du X, mais ça risque d'être la fête du slip pour tous les petits malins qui vont envoyer des emails en disant ah, on sait que vous regardez tel et tel contenu, c'est pas bien. Et donc, pour le prix de mon silence, vous allez me verser tant de crypto-monnaies sur tel numéro, et voilà, et dites-moi merci en plus.
Plus sérieusement, Gilles, à ton avis,
C'est très
l'abaissement
sérieux.
des... Là, oui, je sais, mais je sais, tu as raison. Mais l'abaissement du taux de commission là, de 30 à 17 et de 15 à 10, est-ce qu'il est dans la réglementation européenne ou est-ce que c'est un choix d'Apple et pour quelles raisons, à ton avis, il baisse?
Mais c'est un choix d'Apple pour assécher méthodiquement toutes les raisons que pourraient avoir les développeurs d'aller voir de l'autre côté si l'herbe est plus verte chez Tim Sweeney ou d'autres gros magasins d'applications à venir, à tel point que Microsoft a notamment renoncé au sien. Il n'y a plus de
Sur iOS,
raison.
tu veux dire?
Il y a, c'est le coup de la serpillière, encore une fois. D'un côté, c'est la commission n'est pas intéressante, pas plus intéressante d'un côté que de l'autre. Et de l'autre côté, il y a des coûts supplémentaires. Si on s'en va, qu'est-ce qu'on fait? On reste?
Donc, Ellie, quel succès tu prédis au magasin alternatif? Est-ce que tu penses vraiment qu'on va en voir apparaître un peu de tous les côtés avec des invitations à les installer en direct avant de pouvoir acheter ces applications sans passer par l'App Store?
À mon avis, ça va être vraiment, vraiment un épiphénomène. Hein. Il va y en avoir, hein. Forcément, il y a des gens qui vont vouloir le tester. Mais une grande société qui peut payer ce million de dollars, ils ont des équipes, ils comprennent l'intérêt, ils vont calculer la différence en coûts, parce qu'eux, ils vont raisonner comme ça, et ils vont se dire que ce n'est pas intéressant. Quelqu'un qui ne pourrait jamais publier. Peut tenter le coup, mais ça va lui coûter quand même de l'argent. Donc, il faut que ça soit rentable derrière. Donc, honnêtement, je n'y crois pas et je pense que c'est une réponse d'Apple intelligente plutôt que de se battre contre l'Union européenne, ce qui serait compliqué pour eux. Eh bien, ils s'adaptent aux lois telles qu'on leur donne et puis ils font avec quelque chose qui fait que c'est très difficile à appliquer, voire impossible.
Mais c'est vrai, le point que tu as développé sur le X, hein, je pense qu'effectivement, c'est sans doute les seuls qui vont se lancer, parce que eux, ils sont empêchés aujourd'hui d'exister,
De plus en plus, oui.
et quelque part, la loi européenne va leur permettre de se faire une place sur l'iPhone, ce qui n'était pas le cas
Et
jusqu'à maintenant.
ce qui va être vraiment drôle, parce que du coup, comme eux, ils essayent de lutter contre tout ce qui est pédopornographie et des choses comme ça, quand ils vont voir que à cause de leur loi, du coup, Apple est obligé en disant, mais attendez, nous, on n'y peut rien, c'est vous. Et ils vont faire une loi sur le contenu qui sera disponible dans ces App Store alternatifs. Et alors là, du coup, ça va devenir réellement compliqué s'ils vont jusque-là. Sinon, c'est leur responsabilité.
Ils sont soumis à la loi commune, hein, de toute façon, s'ils se font choper la main dans le sac, et de toute façon, ces magasins d'application, ils auront pignon sur rue, donc ils ne pourront pas faire n'importe quoi. La législation s'applique. Mais il y aura deux types d'industriels du contenu qui va s'y mettre. Le X, vous l'avez très bien dit, parce que les utilisateurs de plateforme Apple sont plus enclins à mettre la main à la poche que les autres et à débourser pour des contenus. Et puis, typiquement Epic Games, et parce que Tim Sweeney veut absolument vendre
Ces
Fortnite
add-ons. Oui, Fortnite avec tous les add-ons.
avec tous les add-ons, parce que d'une part, c'est une énorme plateforme de jeux L'iPhone est une énorme plateforme de jeux ambulatoires, portables, et puis ensuite pour des raisons idéologiques, puisque il a trépigné pendant des mois et des années pour avoir son magasin alternatif. Maintenant qu'il est là, il peut pas dire ah ben non, finalement j'en veux plus.
Oui.
Il y a fort à
Oui, mais il a dû
parier
faire ses
que
comptes. Il a déjà dû faire ses comptes et il sait que ça va pas être une bonne opération.
il va faire tout ce qu'il peut en disant les conditions qu'on nous fait ne sont pas acceptables. Faites-nous une nouvelle législation là-dessus, mais il y a fort à parier aussi qu'il commence à lasser les patients, quoi.
Oui, bah oui.
D'après ce que vous savez de la réglementation européenne, est-ce qu'il y a une possibilité ou un risque pour Apple que les évolutions qui vont être embarquées dans la version 17.4 d'iOS ne répondent pas aux exigences de l'Europe?
Non, il y a peu de chances, je pense, parce que Apple a vraiment regardé ça, et les avocats en particulier, c'est même pas les développeurs, avec une grosse loupe. Hein. Donc, ils seront à la virgule près conformes à la loi. Ils vont pas se battre. Mais par contre, la loi, rien que la loi. Hein. Donc, ils vont pas aller faire du zèle pour être plus propre et plus blanc que blanc. Hein. Donc, ça sera le DMA tel quel. Après, l'Europe peut changer le DMA.
Gilles?
Oui, ils ne peuvent pas le faire non plus tous les 4 matins.
Ah
C'est
ben
ça
non.
qui est très fort. On est conforme à la loi. On respecte les règles. D'où comment dire, le dépit de Meta, de Mark Zuckerberg ou des gens de chez Alphabet, Google. Sur le fait que Apple ait baissé pavillon, au moins c'est comme ça qu'il le présente, devant les demandes et la législation européenne. Or, ils ont vu qu'il y avait moyen d'être plus fin et plus habile que la stricte opposition. Et moi, je trouve que il l'a dit, hein, c'est vraiment beaucoup plus intelligent que la stricte opposition et de risquer d'aller devant la Cour européenne pour contester le bien fondé de la législation. C'est Apple a marqué un point là et il va falloir un petit moment avant que les choses changent. Ils ont court-circuité tout le monde, en fait.
Oui, ils ont pris l'Europe un peu à son propre piège, finalement.
Exactement. Oui,
Ouais.
oui.
Tout en gardant les développeurs, c'est ça qui est
Bien
fort.
sûr, bien sûr. Alors, je vous rappelle que si l'actu Apple vous intéresse, vous avez à votre disposition sur toutes les plateformes de podcast le podcast compagnon de la semaine Apple, c'est iWeek Express, le premier podcast à la parution imprévisible, puisqu'elle est déclenchée par l'actualité. Vous le savez, dès qu'une info de dernière minute d'importance nous arrive, on enregistre un nouveau numéro d'iWeek Express avec deux priorités. D'abord, avoir du recul, même à chaud, et puis être le plus réactif possible. Et la nature d'iWeek Express, son caractère imprévisible, rendent l'abonnement encore plus important. Alors, ne ratez pas cet abonnement sur les plateformes de podcast. Et évidemment, c'est toujours gratuit. On passe à l'info de la semaine à présent, et cette info, on la doit en partie à Mark Gurman, qu'on a surpris en train de tester un Vision Pro il y a quelques jours dans un Apple Store de Los Angeles. Mark Gurman, dans sa newsletter hebdomadaire Power On, qui au détour d'un très long débrief, premier débrief de son test du Vision Pro, nous dit ceci en citant certaines personnes, dit-il, dans le Vision Product Group, donc l'équipe qui travaille sur le masque. Voilà, selon eux, cela pourrait prendre 4 générations avant que le masque n'atteigne, on va dire, sa forme idéale ou qu'on arrive à un concept vraiment vraiment satisfaisant. Alors, 4 générations, sachant que c'est la première là, qui vient de sortir, ça pourrait nous prendre quoi? Une petite huitaine, dizaine d'années, Ellie?
Si on est optimiste, 4. Mais
4
ça...
ans? Ah, tu crois?
Oh, ben, ils peuvent sortir une version par an. Apple est capable de le faire. Maintenant, ça peut être un peu plus long. Mais déjà 4, vous imaginez que tant qu'on n'est pas arrivé à la bonne version de Vision Pro, on ne va pas commencer à parler des lunettes, hein, celles qui devaient sortir là, non pas trop longtemps après le masque. Donc, je sais pas si on les verra un jour. Mais en tout cas, il n'y a pas que la partie technologique hein, dans ça. Dans les 4 générations, il y a aussi la baisse du prix. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle génération, il y aura des fonctionnalités en plus. Il y aura peut-être, suivant les modèles, des fonctionnalités en moins, mais le prix sera inférieur. Et le rapport permettant à n'importe qui, avec un peu d'argent quand même, de s'acheter un produit de la famille Vision, on a commencé à parler d'un Vision Air. Il y aura peut-être un Vision Light, il y aura peut-être un Vision Solo, je ne sais pas, on peut imaginer tous les noms. Ce sera forcément un compromis entre fonctionnalité à l'intérieur par rapport au prix final. Par contre, la technologie, une fois qu'elle est là, en 4 ans, elle est largement amortie parce que la façon dont on va afficher des choses, la façon dont on utilise le produit, etc. Bah, ça sera peut-être un écran de tout petit peu moins bonne qualité, mais en même temps, comme le prix va baisser, on pourra considérer qu'il y aura un produit haut de gamme qui sera toujours avec le top du top du top et d'autres produits qui resteront quand même au niveau de l'utilisation. Il faut que ça soit cette informatique spatiale qui, chez Apple, est tellement différente de celle des autres, parce que des casques, on en a vu plein. Mais je crois que tous les utilisateurs qui l'ont essayé, ce qui n'est pas mon cas, sont d'accord pour dire que c'est une expérience qu'ils n'avaient jamais vue avant, y compris les spécialistes de l'AR et du VR. Hein. Donc, c'est là où Apple est magique.
Ouais. Gilles, Mark Gurman dit à la fin de sa newsletter, vraiment, c'est la conclusion. Le Vision Pro, essentiellement, c'est un prototype. Mais à une différence près, c'est qu'il faut payer Apple pour avoir le privilège de l'essayer.
Oui, alors j'ai déjà dit hein, qu'il n'était peut-être pas de notre génération et qu'il n'avait pas vu Apple proposer OS 10 en bêta et la faire payer à l'Apple Expo de Paris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2000 ou 2001. La bêta de macOS 10, la première, était payante. Je pense qu'il est un peu dur. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Ellie. Moi, je pense vraiment que ils ont en tête, en disant quatre générations, je pense qu'ils ont en tête les lunettes à réalité augmentée. Le casque est là avec les composants qui sont disponibles en 2024. Là, c'est les composants qui sont disponibles et donc on a des compromis et Apple prend date effectivement en présentant ce modèle c'est l'état de l'art de ce qu'on peut proposer. C'est un petit peu comme le Lisa, la première version du Lisa avec ses disquettes de 5 pouces 5 quarts. Et il faut pas oublier que c'est marqué dessus Apple Vision Pro. Apple Vision Pro. Donc, on a une version qui est à destination des professionnels. Apple a sorti une présentation uniquement pour les pros. C'est vraiment comment dire, un public qu'ils ont en ligne de mire, en vue, et il va y avoir des applications pour à visée professionnelle. Et c'est ça qui va justifier le prix. Et éventuellement, un inconfort éventuel. Là, ce qu'on voit, c'est juste pour montrer ce qui est. C'est en cela que Mark Gurman parle de prototype. On voit des applications, ce qu'il est
C'est une
possible de
démonstration
faire.
technologique
Oui,
aujourd'hui.
c'est ça. Oui.
C'est ça, c'est un démonstrateur. Voilà,
Ouais,
cherchez le
ouais.
mot.
Alors,
Mais
Mark
il est.
Gurman, dans sa newsletter, il est très précis et je pense qu'il va revenir dessus dans les semaines qui viennent parce que, à toute évidence, Il a récupéré un Vision Pro et il est en train de l'utiliser de manière quotidienne.
Depuis une semaine, il l'a dit.
Ouais. Il écrit que le Vision Pro d'aujourd'hui, c'est plus un avant-goût du futur que le futur lui-même. Il est trop lourd et encombrant. L'autonomie de la batterie est bien trop limitée et il n'y a pas assez d'applications natives. À propos de Vision OS, donc du système d'exploitation, il écrit qu'il souffre de bugs bien plus que ce qu'on attendrait typiquement d'un produit Apple, même pour un produit de première génération. Et donc il continue en écrivant qu'Apple a beaucoup de travail encore à faire pour résoudre des bugs de manière plus rapide. Et
C'est
voilà,
fait ça.
voilà, et il explique que le logiciel est plus une version bêta qui va demander environ un an avant d'arriver à un stade qui sera suffisant pour que le grand public l'utilise sur une base quotidienne. Voilà.
Oui, je suis assez d'accord et ça explique d'ailleurs pourquoi. On en avait parlé dans l'émission à l'époque. Une partie de l'équipe de l'ingénierie ne voulait pas que le casque sorte en disant il n'est pas prêt. Et c'est là où Tim Cook, à un moment donné, il a pris une
C'est
décision.
vrai.
Il a dit ça sortira là, tel qu'il est, à telle date.
Ça suffit.
Et
Ouais, ça.
ouais.
8 ans de développement à peu près. Donc effectivement, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Ouais.
Ils sont en train de prendre date, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la posture journalistique où après l'effet waouh, il faut dire ce qui va pas et le dire fort pour pas avoir l'air de faire de l'Apple pas de l'Apple bashing, mais au contraire de l'adoration hein, d'Apple. Mais c'était souvenez-vous le premier Mac était le version 1 du Finder et du système était pas. C'était même la version 2 du Finder, je ne vais pas dire de bêtises. Les gens qui ont ouvert l'iPhone n'en croyaient pas leurs yeux, il y avait des composants électroniques partout, même ceux qui ont regardé le code, il y avait des bouts de script partout. Il y avait un journaliste qui avait parlé d'une plaque imprimée du niveau de première année de l'école d'électronique. Et la première version de l'iPad n'était pas terrible non plus, même jusqu'à la 2, la vidéo n'était pas géniale non plus, ou la photo. Enfin, il y a toujours eu ce truc depuis le retour de Steve, je ne me souviens plus du vice-président du hardware engineering. Qui habituait les ingénieurs d'Apple justement à sortir un truc à la date prévue, un produit à la date prévue, et puis on améliore au fur et à mesure, au fil de l'eau, et puis c'est comme ça, sinon on ne sort jamais les produits.
Alors, puisque c'est vraiment un nouvel espace qui s'ouvre à tout le monde, hein, aux utilisateurs et aussi aux développeurs, eh bien ceux qui ont sorti une application native, et on pourra peut-être poser la question à Baptiste la semaine prochaine s'il est là, commencent à faire les comptes, en tout cas, dressent un premier bilan. Des statistiques de téléchargement depuis la sortie du Vision Pro. Donc forcément, il n'y a pas non plus énormément de masques encore en circulation. On avait parlé de 200, presque 200 000 exemplaires vendus en 3 jours. Ils ne sont pas tous arrivés pour autant chez ceux qui les ont commandés. Donc voilà, il n'y a pas une énorme quantité de masques en circulation. Apple a parlé de 600 applis natives disponibles sur le store. En fait, il y a beaucoup de développeurs qui n'ont toujours pas passé la barre des 1 000 téléchargements pour leur appli, appli native Vision Pro. Par exemple, Zenitizer, donc c'est l'une des 600 applis disponibles, ils étaient à 600 téléchargements le 11 février, donc avant-hier. Hold On, une appli de un minuteur en fait, était à 6 téléchargements. depuis le lancement du store. Donc 6, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, et si on regarde celles qui sont le plus téléchargées, ben on arrive sur des scores de l'ordre de 14 000. C'est le cas notamment de Jigspace, qui, je crois, est un jeu, si je ne me trompe pas. J'aurais bien aimé avoir les stats de Juno, donc le player YouTube, pour Vision Pro. Donc, sachant que YouTube n'a pas d'app dédiée, en tout cas pas encore, mais on n'a pas encore les stats.
Et oui, ce sont majoritairement des applis payantes aussi. Il y a beaucoup moins d'applis gratuites avec des achats in-app qui sont téléchargés, contrairement à ce qui se passe sur l'App Store de l'iPhone. Donc, est-ce que c'est une nouvelle habitude à prendre? Est-ce que l'intérêt des apps, j'en sais rien. On est sur des publics extrêmement diversifiés, avec une population qui est extrêmement faible. Donc, par rapport à ce qu'on a pu connaître, hein, les débuts de l'App Store sur l'iPhone, il y avait déjà c'était déjà la deuxième génération d'iPhone, puisqu'il y avait eu l'iPhone Edge, on était à l'iPhone 3G. Donc, laisser peut-être un petit peu de temps pour.
Bon, en tout cas, c'est pas étonnant, Élie, que les apps soient payantes, parce qu'il y a peu d'applis pour l'instant. Donc,
Oui.
C'est normal d'espérer un petit retour quand même.
Oui, et puis ces développeurs, ils se disent, il faut qu'on soit là au début avant d'avoir toute la concurrence de la Terre. Profitons. Quelqu'un qui peut déjà sortir 3 500 $, mais vous avez vu que la plupart des gens ont acheté le sac de transport à 200 $. Ils ont acheté une batterie supplémentaire. Ils ont acheté le... Bref, donc c'est quand même des dépenses qui sont plus élevées que ça. Et ça explique d'ailleurs pourquoi probablement il n'y a pas énormément d'apps pour l'instant téléchargées, parce que, bon, je ne connais pas la liste des 600, mais les premiers acheteurs, c'était des acheteurs impulsifs complètement, donc des influenceurs, des professionnels de l'informatique, beaucoup de journalistes qui ont acheté le masque pour dire « on l'a ». Je ne pense pas qu'Apple ait vu pour l'instant, ça va venir, hein, des utilisateurs qui vont réfléchir à une utilisation et qui vont l'acheter parce que c'est une réponse par rapport à un problème. Et peut-être que lorsqu'il y aura des logiciels professionnels, puisque pour l'instant, j'en ai pas vu, ça peut faire acheter le Vision Pro parce qu'il y a une application, j'en sais rien, de 3D destinée à l'industrie automobile, ou une application de 3D immersive, hein, dans ce sens-là, destinée à la médecine. Quelqu'un qui pourrait faire une simulation d'une opération à travers un Vision Pro, ça peut faire qu'un hôpital, on n'achète pas un, mais on achète un wagon. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est des gens qui le mettent, d'ailleurs, dans la rue, dans le métro, n'importe où, qui se filment avec en train de faire n'importe quoi, en train de conduire une voiture. Enfin, on a tout vu. Et c'est des gens qui... en fait, l'utilisent presque pour faire augmenter leur nombre de vues sur YouTube. Donc, ça, c'est les influenceurs. Et puis, même des gens qui l'ont acheté comme ça, on commence à trouver des journalistes parmi ceux qu'on connaît, y compris d'ailleurs des journalistes français qui l'ont acheté, qui commencent à dire « Ouais, on était bluffés, mais finalement, c'est pas pour une utilisation professionnelle. » Ah bon ? C'est peut-être pas pour vous, mais... en tout cas, si c'est par exemple pour faire du montage vidéo, non, le Vision Pro n'est pas fait pour ça pour le moment, parce qu'on n'a pas l'appli qui va avec. Hein. Donc, il y a des gens qui vont le ranger en attendant d'en avoir un réel besoin. Moi, j'ai trouvé incroyable cette vidéo, il y en a eu des dizaines, hein, du mec qui a totalement mappé son appartement en mettant des écrans partout. Devant la télé, il y a le truc d'écran, les notes avant de partir pour ne pas oublier les courses. Mais j'ai trouvé ça tellement incroyable, et je ne savais pas que le Vision Pro mappait tellement bien un espace. C'est étonnant. Ouais.
On disait la semaine dernière que c'était sans doute la vidéo qui faisait la meilleure pub au Vision Pro, même mieux que les pubs d'Apple.
Absolument. Ouais. Moi, ça m'a totalement impressionné.
En attendant la version 1.1 de Vision OS qu'on a évoquée aussi la semaine dernière, la 1.0.3 est sortie là ce lundi. Bon, c'est pas une mise à jour révolutionnaire, hein, des petits bugs en moins. Et un souci, en tout cas un vrai souci potentiel qui disparaît, c'est pour ceux, Ellie, qui avaient oublié le mot de passe de leur
Exactement, parce
masque.
que là,
Ouais.
ils étaient bien embêtés, surtout qu'il fallait retourner dans un Apple Store pour qu'un employé d'Apple formé à ces techniques puisse resetter le mot de passe. Parce que je suppose, si c'est comme sur un Mac M1, et admettons pourquoi, enfin un Mac M, et pourquoi pas, puisque c'est le processeur qu'utilise le Vision Pro, ça veut dire que, et le process n'est pas décrit, mais j'imagine que ça peut ressembler à ça, il doit y avoir une façon de démarrer le masque dans le mode récupération, qui est un mode presque comme un terminal. Il y a un écran noir avec une barre qui permet de dire utilitaire de disque ou test 2. Et là, effectivement, on arrive dans un mode, c'est comme ça que ça se passe sur un Mac, où on peut tapoter, en anglais dans le texte évidemment avec un clavier QWERTY, reset password, et ça amène à l'interface qui permet de changer le mot de passe. Mais ça, on ne va pas dire à quelqu'un qui a payé 3 500 $ pour le casque, boot en mode terminal et va taper des commandes en anglais. Donc non, donc ils ont dans la 1.0.3 fourni une façon entre guillemets poly ou user-friendly
Ouais.
de faire cette chose-là. Donc de faire un reset password. D'ailleurs, moi, 99% de mes clients ne savent pas le faire. Hein. Ils viennent chez nous pour qu'on leur fasse. Alors que c'est pas
Ben oui.
compliqué. Hein. La page de support Apple explique très bien comment le faire. Mais bon, donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Et d'ailleurs, en plus, Apple explique, et ils ont raison de le faire, que le fait de faire ça n'enlève pas le verrouillage d'activation. C'est-à-dire que si vous aviez mis votre mot de passe, votre Apple ID avec votre mot de passe iCloud habituel, et que quelqu'un d'autre fait un reset password, il ne peut pas utiliser le masque quand même. Il faut votre mot de passe. Donc, heureusement, heureusement.
Alors, un message important pour nous, hein, avant de passer au journal de la semaine. Si vous appréciez notre travail, soutenez-nous et rejoignez la communauté iWeek sur Patreon. Vous nous aiderez ainsi à développer cette super chouette aventure qu'on vit avec vous. La page iWeek sur Patreon, c'est patreon.com/iWeek. Elle vous attend. Un grand merci à chacune et à chacun de vous qui nous soutenez déjà. Et on a besoin que vous soyez encore plus nombreux pour vous proposer toujours plus de contenu et d'épisodes de nos podcasts. Alors, le journal de la semaine avec les quelques infos essentielles de ces derniers jours. D'abord, cette info qui concerne à nouveau l'Union européenne, puisqu'on a appris aujourd'hui, mardi, qu'Apple n'aura pas à ouvrir iMessage à d'autres protocoles de communication en Europe, comme... Mais il en avait été question pendant plusieurs semaines.
C'est incroyable. On dit non, mais finalement, c'est bon, vous embêtez pas, on le fait pas. Et donc là, Apple dit What? Pourquoi?
Mais qu'est-ce qui s'est passé alors?
Ah, je sais pas du tout.
C'est au niveau du. Comme la messagerie n'était pas utilisée massivement dans le monde professionnel, la commission a dit Bon, allez, ça va, ça passe. Ben c'est, on voit que ça tient du procès en sorcellerie monopolistique, qui ça tient pas le bout. Là, c'est leur histoire de gardien de la porte. On se demande qui est le maître des clés. Il faudrait leur expliquer avec Margaret Vestager qu'il faut pas croiser les flux, quoi. Ça va pas leur truc.
Mais ce qui est incroyable, c'est qu'au départ, Apple avait confirmé que e-message entrait bien dans la catégorie de ces gardiens de la porte, donc gatekeeper en anglais. Mm-hmm. Donc quelque part, Apple avait dit, bah oui, c'est vrai, voilà, on rentre dans le cadre de cette définition.
C'est pour ça que les autres avaient râlé, mais ils ont dit, bon, mais très bien, vous voulez que ça soit un gatekeeper, c'est un gatekeeper, et puis tout en donnant des arguments, continuer à batailler, puis finalement ils se sont rendus compte que ça tenait pas la route. C'est une histoire d'appel groupé. S'il y en a un qui gagne, tout le monde prend et bénéficiaire de la décision qui est cassée, quoi, ou
Ouais, alors
qui est invalidée.
c'est vrai qu'au mois de septembre, quand on a commencé à en parler, il était question à la fois de d'iMessage, donc côté Apple, et de Bing aussi côté Microsoft.
Oui.
Et c'est vrai qu'Apple, après avoir reconnu que iMessage effectivement était concerné, ils sont revenus dans un deuxième temps à la charge en disant oui, mais en Europe, en fait, on n'est pas si gros, et donc en Europe, en fait, non. Et donc l'Union européenne a finalement annoncé la fermeture de l'enquête à la fois sur Bing et sur iMessage.
Oui.
C'est ça, et j'ai dit une bêtise, Google est totalement ouvert puisque ils sont partie prenante de cette version améliorée qui a la vocation à remplacer les SMS et les MMS, je ne me souviens plus du nom.
Le RCS.
RCS, c'est ça.
Donc voilà, ni iMessage, ni Bing, ni Edge, ni Microsoft Advertising n'entrent dans la définition des services dits gatekeepers en Europe. Donc le DMA, le Digital Markets Act, ne s'applique pas à Apple pour iMessage. Voilà, Apple qui est donc tranquille là-dessus en Europe. Ouais, Ellie.
Non, et si on arrêtait de parler de l'Europe, là? Et si on se concentrait sur le mois de mars? Parce que le mois de mars, ça va être super.
C'est sûr, c'est
Au
sûr.
niveau
Alors,
des annonces Apple, hein, et il n'y en a pas qu'une, hein.
oui.
Je sais que tu penses à une en particulier, mais il n'y aura
Alors,
pas que
tu veux
celle-là.
qu'on parle du Mac Mini M3? Allez, parlons du Mac Mini M3, Ellie.
Moi, je voulais pas qu'on parle de lui, parce que lui, c'est le by-product, parce que c'est le dernier arrivé dans les rumeurs, mais c'est surtout ceux qui sont prêts depuis longtemps et qui s'appellent les MacBook Air M3, qui s'accompagneront d'un Mac Mini, forcément, hein, donc, et d'un iMac, mais il est déjà sorti, donc ça, c'est un peu trop tard. Donc, les produits M3, entrée de gamme, les dernières rumeurs, confirmées par plusieurs sources crédibles, arriverait au mois de mars. On avait dit mars, avril, parce que traditionnellement, mars, c'est l'iPad. Et donc, avril, c'est plutôt un mois pour les UC. Bon, il semblerait que là, on parle de mars. Moi, de toute façon, je peux vous dire que, vu le trafic dans les magasins d'informatique, et je ne parle pas que de nous, hein, de tous mes confrères, voire du retail, voire de tout ce que vous voulez, les grossistes, etc., depuis janvier, il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'informatique en France des ventes aussi mauvaises que celles qu'il y a eu en France au mois de janvier. C'est
Ah oui.
une catastrophe, mais une catastrophe.
Donc
Donc,
il y a urgence, c'est ça que tu veux dire?
mais oui, pourquoi les gens n'achètent pas? Ben parce qu'il n'y a rien de nouveau et que le mois de février, malheureusement, on va nous passer aussi et risque de battre des nouveaux records. De pas de vente, tout simplement parce que les gens attendent des nouveaux produits, qu'Apple était très focalisé Vision Pro pendant le mois de février, on le savait et on le craignait. Et donc, il semblerait qu'au mois de mars, parce que même Apple, vis-à-vis de ses actionnaires, il faut qu'ils clôturent un trimestre, il faut qu'ils sortent du résultat. Et ce n'est pas avec la vente des Vision Pro qu'ils vont présenter aux actionnaires un bon dividende avec des bons résultats. Donc, ces produits qui sont prêts depuis super longtemps, le problème c'est qu'Apple n'arrivait pas à trouver un endroit pour les caser. Donc, vont arriver. Alors, qui commence par l'iPad et continue par les MacBook Air et Mac Mini, ou qui commence par les ordinateurs et continue avec les tablettes après, ça m'est égal pourvu qu'Apple sorte des nouveaux produits vite.
Alors, je vais rappeler quand même l'historique. Le Mac Mini M1, c'était en novembre 2020. Le Mac Mini M2 et M2 Pro, c'était en janvier 2023. Donc, il s'était passé plus de 2 ans. Mais c'est vrai qu'il y avait toute la période du Covid, les fermetures d'usines, etc. À ce moment-là. Si le Mac Mini M3 arrive là, en mars. Ça fera 14 mois, c'est pas trop court dans le cycle de renouvellement, Ellie?
Non, parce que les processeurs M3 sont prêts depuis longtemps. Donc, et qu'Apple nous a tous surpris en annonçant d'abord les modèles pro avant de sortir les modèles grand public, c'était la grande première, et qu'il y avait un énorme problème de fabrication. Et il semblerait que les difficultés de fabrication s'améliorent, et même que TSMC est en train de travailler sur une version améliorée du 3 nanomètres, mais ça c'est pour septembre, pour les nouveaux iPhones, toujours les nouveaux iPhones d'abord. Et donc, il semblerait que maintenant les usines savent produire et donc ils vont pouvoir livrer les quantités nécessaires à un lancement de produits d'entrée de gamme intéressant. Donc, du coup, ça va faire changer les 13 pouces, les 15 pouces et le Mac mini. Donc, moi, ça me semble parfait. Maintenant, est-ce que ça va être la folie comme le Vision Pro, parce que finalement, les produits M3, bah on sait à quoi ça ressemble, hein. Il suffit de regarder un iMac aujourd'hui. Donc on sait ce que c'est.
C'est sûr, c'est
Bon.
sûr. Si les annonces du mois prochain vous intéressent, je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière où on avait assez largement parlé de ce MacBook Air et aussi des nouveaux iPad Pro à écran OLED. Gilles?
Oui, la différence, c'est que ce qui devrait sortir là au mois de mars, ce sont des produits qu'on pourra acheter, à la différence du Vision Pro, qu'on peut rêver devant les tests, mais pour l'instant, on ne peut pas les acheter et on ne pourra pas les acheter avant un moment.
C'est sûr. Alors on passe à une autre news de ces dernières heures. Elle n'est pas inintéressante dans la perspective de sans doute la deuxième partie de l'année, en tout cas à partir de la WWDC, c'est l'achat par Apple du nom de domaine iWork.ai, AI comme Artificial Intelligence. Ellie, qu'est-ce que ça te suggère?
Ben, ça me suggère qu'Apple continue à travailler dans l'IA sans qu'on ait vu pour l'instant les résultats. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'une des façons dont Apple va faire une démonstration qu'ils savent faire de l'intelligence artificielle, mais dans un domaine pratique, c'est de le faire dans la suite iWork. Parce que s'il y a un outil qui permet d'automatiser la création de slides grâce à l'IA, qui permet, donc ça c'est dans Keynote, qui permet d'améliorer la rédaction de votre texte, ça c'est dans Pages, et qui permet de vous aider à faire des tableaux croisés dynamiques simplement en parlant avec votre assistant personnel, ben c'est là où les gens attendent Apple. Et Apple, on les a suffisamment critiqués pour ce retard qu'ils prennent, sont capables de nous sortir des produits qui utilisent l'IA, mais qui en même temps soient conviviaux, faciles à utiliser, et où les gens se disent, ah ouais, quand même. Et donc là, on pourra dire, oui, ils ont pris leur temps, mais ça y est, c'est là. Et après, les OS en même temps, mais les OS, c'est moins visible parce que, admettons, iOS 18 aura de l'IA. Très bien. Pour faire quoi?
Oui, c'est ce
Donc,
que Mark Gurman dit depuis le mois d'octobre dernier, hein, c'est qu'il y aura beaucoup d'IA dans iOS 18.
énormément. Et d'ailleurs, avec l'iPhone 16, qu'il y aura des choses pour faciliter l'utilisation de cette IA, parce qu'Apple, en même temps, veut bien vendre quelques iPhones si possible. Hein.
Bien
Donc,
sûr.
mais
Il y a
c'est
la
là
nouvelle
qu'il a
version de
été.
Siri aussi, hein, qui est attendue.
Le pardon?
La nouvelle version de Siri.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je ne sais pas si ça va s'appeler Siri, mais en tout cas, cet assistant personnel Apple dopé à l'IA. Bon, le nom de code, c'est Ajax, mais ils vont pas l'appeler comme ça. Sinon, on va immédiatement dire que l'iPhone lave plus blanc, mais donc, sinon, ça ne va pas le faire. Mais en tout cas, le nouvel assistant, on l'attend vraiment aussi avec impatience. Il y a des tas de choses qu'Apple sait faire et peut faire en utilisant de l'AI générative surtout, puisque c'est là où on les attend. On a eu pendant 2 ans plutôt des LLM et on commence à voir les premières AI génératives chez Google et chez OpenAI. Donc Apple, à la limite, va arriver tard, mais va arriver. Donc on attend
Ouais.
impatiemment cette WWDC. Peut-être sera-t-on un peu déçu ou pas, mais.
D'ailleurs, attends, je te passe la parole, Gilles, mais l'info est passée un petit peu inaperçue. Mais la semaine dernière, Apple a en fait a diffusé un modèle open source réalisé, enfin créé en collaboration avec l'université de Santa Barbara. Et c'est un modèle d'IA qui permet de manipuler ou de modifier des images. Donc on imagine que ce sera intégré probablement à une nouvelle version majeure de la suite bureautique d'Apple, donc iWork. Gilles, est-ce que tu crois que Apple est un peu obligé de réagir face à l'arrivée justement de Copilot dans Office 365?
Oui, et puis il faut se souvenir, il y a deux choses, c'est que c'est pas parce que on a iWork.ia que obligatoirement il sera utilisé, parce que Apple achète tout un tas des brassés de noms de domaines pour éviter les petits malins qui font du cybersquatting, mais c'est ça vrai. Veut pas dire qu'ils l'utiliseront pas, hein. C'est
oui, bien sûr.
Ça aurait du sens de l'utiliser. Et puis il faut se souvenir que historiquement iWork est un caillou dans la chaussure de Microsoft et d'Office, qui était la moitié des ou le quart des revenus d'Office pour Microsoft était sur la plateforme Apple. Et puis au fur et à mesure, iWork a été une façon moins onéreuse pour les utilisateurs de Mac depuis d'iOS de générer des documents de façon beaucoup plus sympa malgré la licence qui était donnée à Microsoft d'utiliser les ressources d'Apple. Et donc, c'était d'abord beaucoup moins cher pour tous les gens qui n'étaient pas prisonniers de leur code Excel qu'ils avaient codé, qu'ils avaient généré, qui donc les scotchaient, les verrouillaient sur la plateforme. Et ensuite, la gratuité de macOS, puis d'iWork, a obligé ensuite Microsoft a passé sur un modèle de gratuité de l'OS et d'Office qui est passé par abonnement à la faveur du passage dans le cloud. C'est une réponse clairement à l'intégration époustouflante de ChatGPT à la suite Office qui a été présentée en même temps que ChatGPT 3.5, souvenez-vous, l'année dernière.
Autre info de ces derniers jours. Alors, c'est un ancien de chez Apple qui est arrivé ce lundi chez General Motors. En fait, il était déjà passé chez GM et il est de retour. Et il s'appelle Steve Kenner. Chez Apple, il était membre de cette équipe qui s'appelle le Special Project Group, qui est suspecté de travailler sur un projet de voiture chez Apple depuis des années. Il était en charge notamment de la sécurité et de tout ce qui concerne la régulation. Donc il était notamment en discussion avec les autorités californiennes pour permettre d'utiliser des voitures autonomes sur les autoroutes, etc., dans le cadre des tests que faisait probablement Apple. Et donc voilà, Steve Kenner vient d'arriver, de revenir chez General Motors, où il est nommé en tant que patron de l'activité taxi autonome.
Mmh. Oui.
Ça continue de bouger hein, dans l'équipe potentiellement Apple Car Ali.
Oui, on sait d'ailleurs, il y a certainement des nouveaux qui vont arriver. On ne sait pas quand est-ce que ça sortira, mais à force d'en parler, peut-être que ça sortira ou pas, d'ailleurs. C'est un peu comme la télé Apple, hein. On l'attend celle-là, ils ne l'ont toujours pas sortie.
Je pense qu'on peut l'attendre longtemps.
Mais oui, typiquement... il y a d'autres petits produits. Il paraît qu'il y a un multi-chargeur qui devait sortir à une époque qui permettait de charger trois appareils Apple en même temps. J'avais vu même des photos, pour te dire. Hein.
Ne remue pas le couteau dans la plaie.
Ouais, typiquement, c'est l'une des raisons, à contrario, hein, c'est l'une des raisons pour lesquelles Tim Cook a voulu sortir maintenant le Vision Pro, c'est que le projet Titan traîne en longueur, le spécial project traîne en longueur et les gens en ont marre et s'en vont. Et là, concrètement, le responsable qui négociait un petit peu en l'air, s'en va sur un projet concret qui est une application qui peut être comment dire, rentable, qui peut générer de la rentabilité. Ce sont les taxis. Typiquement, ça a été une des premières applications du moteur à explosion par rapport aux calèches. Et la deuxième application, c'était la livraison, le dernier kilomètre. Et donc là, General Motors met ce garçon sur un projet concret qui va générer du cash et donc qui, vraisemblablement, n'est pas très loin d'une sortie.
Je ne sais pas si vous étiez devant votre télé dans la nuit de dimanche à lundi pour assister à la victoire des Kansas City Chiefs devant les 49ers de San Francisco. C'était la finale du Super Bowl à Las Vegas, victoire 25 à 22 avec Taylor Swift dans les tribunes. Si vous avez eu l'occasion de lancer l'appli Plan et d'aller à Las Vegas, eh bien vous avez pu bénéficier de ce survol, plutôt de ce survol, mais à l'intérieur de l'Allegiant Stadium, ce stade assez extraordinaire que l'appli Plan permet presque de visiter, Ellie. Est-ce que tu l'as vu?
Oui, absolument. J'ai regardé, c'est étonnamment bien fait. Bon, Tim Cook était présent au Super Bowl, hein, comme Elon Musk, comme des tas d'autres personnes. Ils n'ont pas eu droit à une caméra dédiée comme Taylor Swift, parce qu'elle avait une caméra dédiée pendant tout le Super Bowl, qui la suivait. Elle ne faisait rien que rigoler, boire, manger, etc. Mais la caméra était là, donc si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans la chaîne de télé, vous pouvez vous payer peut-être 12 heures de Taylor Swift. mais bon, à part ça, non, j'ai vu effectivement dans Maps le stade, et il est fait avec comme Apple sait le faire, hein, donc c'est très très joli, on peut se balader. Sur cette pelouse, on peut imaginer même les actions des joueurs pour ceux qui ont suivi le match. Moi, je continue à ne pas connaître les règles du NFL, donc je suis nul. Je vois bien qu'ils courent et qu'ils se tapent et qu'il se passe des choses, mais personne ne m'a toujours expliqué les règles. Je suis très en retard.
Bon, tu vas pouvoir taper sur quelqu'un si tu veux dans nos coups de cœur et nos cartons de la semaine. Je vais quand même commencer avec toi, Gilles, parce que décidément tu es très série en ce moment. Alors, après Masters of the Year, là cette fois tu as plutôt fait un rattrapage.
Oui, on n'avait pas droit à un bis, donc j'ai fait une séance de rattrapage de binge-watching sur All Mankind. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. On a une petite pensée pour Fabrice Neumann. J'avais beaucoup, beaucoup aimé la première, voire la deuxième saison. J'avais arrêté parce que il n'y avait plus, c'était pas suffisant pour moi pour continuer l'abonnement. Et là, à la
Et
faveur
pourtant,
de...
la troisième, elle est extraordinaire.
Ouais. La troisième est extraordinaire. La quatrième est excellente aussi. J'attends la cinquième.
Mais oui.
Le coup de cœur, il est là pour tous les petits Easter eggs, les petits clins d'œil qu'il y a tout au long de la série sur
Alors
les
dis-nous, parce que moi
rappels.
j'ai pas forcément eu ce réflexe-là.
Alors, il y a le type qui fonde une société et
Ne
qui se
spoil
fait,
pas, hein.
je parle pas, mais qui se fait virer, il fonde une société, il se fait virer par la personne qu'il est allé chercher pour l'aider à diriger cette société. Il y a
Donc t'as vu John Sculley et Steve Jobs, hein, clairement.
voilà, clairement, il y avait ce machin-là, le salcon aussi qu'on voit derrière le type qui a une force d'entraînement et clairement un champ de distorsion de la réalité. Il y a aussi les mains quand il parle. Quand il explique pour convaincre les gens, qui rappelle les photos de Doug Menuez, la façon dont Steve et les gens particulièrement convaincants avec du charisme utilisent leurs mains pour convaincre leur auditoire.
Ah oui,
Et
là tu vas loin
puis,
là. Là tu vas loin
ah,
là.
non, on le voit, on le voit vraiment et c'est exprès, je crois.
Oh, si,
Et
si, tu vas
il y
loin
a
là.
On le
Un
croit.
des cosmonautes, je me souviens plus, des
La longueur
astronautes.
des ongles.
Non, je te jure, elles sont filmées en gros plan avec de près avec un grand angle. Donc il y a vraiment un rappel de la photo de Doug Menuez. Et puis il y a je me souviens plus quel est l'astronaute historique, le nom de son personnage, mais qui a un visage taillé à la serpe, très masculin, très l'américain, un visage de cow-boy. Et dans sa nouvelle combinaison dessinée par la nouvelle société, qu'il rejoint une sorte de Tesla aussi. Pardon, pas de Tesla, de SpaceX. C'est typiquement la combinaison spatiale de Buzz l'éclair. Elle n'est pas de la même couleur, mais c'est vraiment ça. Et j'ai fait valider tout ce que je vous dis là par Fabrice Neumann, donc je suis
D'accord.
inattaquable.
D'accord. Ok. Merci Gilles. For All Mankind, évidemment, si vous n'avez pas encore ni commencé ni regardé la saison 4, on vous la conseille tous. C'est une des vraiment séries fabuleuses à ne pas rater. Ellie, est-ce que tu aurais un petit coup de cœur du fond de ton lit
Non, je vais céder ma petite minute à Gilles qui a été un peu bavard sur.
Formidable, je suis d'accord.
J'étais enthousiaste, c'est différent.
Oui, mais il avait marqué 1 minute. Hein.
C'était l'épisode 173 d'iWeek Last Man Apple. Si vous aimez notre rendez-vous hebdo, abonnez-vous aussi à notre nouveau podcast iWeek Express sur toutes les plateformes. C'est gratuit aussi. Sur Apple Podcast, justement, on a besoin de vos notes 5 étoiles, évidemment, et de vos avis. Prenez quelques secondes, dites tout le bien que vous pensez d'iWeek Last Man Apple. Vous donnerez envie à d'autres. Et puis bien sûr, patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté et pour nous soutenir. Merci beaucoup les amis. Ellie Abitbol, je te souhaite de revenir en pleine forme. Merci d'avoir été là.
Merci à vous, ça m'a permis de passer un bon moment. Je vais replonger dans mon lit douillet.
Trop sympa de t'avoir retrouvé. Et merci aussi à toi, Gilles Donès.
C'était avec plaisir. J'étais content de retrouver Ellie après avoir retrouvé Fabrice. Et puis bon, bien entendu, le Benjamin Vincent qu'on ne présente plus.
Merci Gilles, c'est sympa. Suivez-nous sur les réseaux, on est présent un peu partout. Hein. Threads, Blue Sky, Mastodon et toujours sur X Twitter. Vous pouvez chercher iWeek News ou iWeek.news. Partout, un seul hashtag à utiliser, c'est iWeek LSA, LSA comme la semaine Apple. On vous dit à très vite pour la suite, à tout moment évidemment avec iWeek Express. Abonnez-vous et puis à la semaine prochaine. Évidemment pour l'épisode 174 d'iWeek la semaine Apple. Salut les amis, à très vite et si vous êtes soutien Patreon, on se retrouve tout de suite pour le bonus. Ciao!
Salut!
Bye bye!